carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le 17 juin 2008, Pierre Cardin recevait Canal Académie, avenue de Marigny, au siège de sa société, dans son bureau, pour évoquer la Chine, où il fut l'un des premiers hommes d'affaires français à s'implanter, dès 1978 en pleine guerre froide. Que représente la Chine pour le créateur de mode, designer Pierre Cardin, jamais à court d'idées et de projets ? Retrouvons Pierre Cardin entre deux rendez-vous d'affaires dans son bureau, dans les conditions d'enregistrement, c'est-à-dire avec quelques travaux sur la façade. Pierre Cardin, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici chez vous, dans votre société, dans votre maison de couture, avenue Marigny. Pierre Cardin, que représente la Chine pour vous ?
Bien, pour moi, la Chine, depuis bientôt 30 ans, je suis en Chine, à l'époque, qui était maoïste et qui était un pays communiste, comme vous le savez. Donc, cette envie d'aller en Chine, c'était le désir de connaître ce paradis, paraît-il, puisque c'était le paradis, et de voir dans quelles conditions la propagande s'était faite à travers des gens aussi, comme de la Russie d'ailleurs, à travers des Malraux, à travers des personnalités très importantes. J'ai voulu connaître vraiment comment était la vie de ce pays. Je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout l'image que l'on pouvait avoir en reflet à l'étranger par rapport à la politique qui était absolument engagée dans ce pays, qui a beaucoup souffert, qui est le plus grand pays du monde auquel nous devons toute la culture du passé. Je crois que la Chine a une mémoire exceptionnelle pour le monde entier, puisque grâce à leurs inventions et leur philosophie, leur psychologie, la Chine a imposé leur manière d'être dans le monde, et que j'ai voulu connaître ce pays par plaisir et par culture surtout.
Alors, vous avez été, je crois, le premier Français, disons, homme d'affaires à aller en Chine en 79, à la rencontre de ce pays qui était fermé, complètement fermé.
Oui, le pays était fermé. L'ambassadeur à Paris m'a permis d'avoir mon visa très, très rapidement. Et j'ai voulu découvrir toute la Chine, non seulement Pékin, Shanghai. J'ai connu, par exemple, Pékin, qui était toute une ville de murs gris. Il y avait une telle misère à l'intérieur des murs, qui était une dissimulation du drame de ce pays, qui, par la politique, a dû... philosophiquement un très bel espoir. C'était superbe comme idéal. Le communisme est un idéal merveilleux par la pensée, mais par la réalité, ça ne s'est pas passé pareil. Et d'ailleurs, on a vu que des fortunes colossales se sont faites, et d'autres qui mouraient de misère et de faim, et d'obéissance surtout. Donc j'ai voulu connaître ce pays, et ce qui m'a permis de voyager dans tout le monde, dans toute la Chine, aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, donc je connais bien toutes les capitales et toutes les villes et toutes les régions.
Qu'est-ce que vous avez créé en Chine ?
Au début, c'était des tapis. La première raison pour laquelle j'ai pu m'infiltrer, c'était très compliqué pour un capitaliste, car je suis capitaliste, ce n'est pas ma politique en réalité. Mais le biais que j'ai choisi, c'était des tapis. Nous avions une fabrique de tapis à Tianjin, qui est à pas très loin de Pékin, et qui, à travers des Japonais, licence, avait fabriqué des tapis Pierre Cardin à Pékin, à Tianjin exactement. Et on m'avait demandé de venir voir les tapis, si ça correspondait au dessin que j'avais donné. C'était un des biais les plus faciles pour moi pour me rendre à Pékin. Et quand je suis allé à Tianjin, évidemment, j'ai vu mes tapis. C'est comme ça que j'ai eu le premier contact. Je me suis fait des liaisons industrielles, commerciales, à travers les ministres à l'époque de la Chine.
Vous aviez découvert le Japon avant. Donc la Chine, c'était une autre fenêtre sur l'Asie. Mais culturellement, est-ce que c'était tout aussi séduisant, j'imagine, mais...
Oui, moi, je vais au Japon depuis 50 ans. Je suis allé 52 fois au Japon, en 56 la première fois. Donc vous voyez que ça fait très loin. Mais on ne peut pas comparer. Le Japon est un pays qui est très développé, qui était capitaliste au dernier degré, qui avait une culture et qui avait une, disons, au point de vue industriel et politique et diplomatique, c'était impérial de toute façon, n'est-ce pas, c'était l'empereur. Et la Chine était l'opposé, c'était le socialisme, donc c'était une partie plutôt qui appartenait à tout le peuple chinois, tout en ayant des directions qu'il fallait obéir. Évidemment, on n'est pas les comparer, les Chinois sont des gens très ouverts, faciles à comprendre, très amicaux immédiatement. Les Japonais, malgré 52 ans de présence, je ne les connais pas encore. Ce sont des gens très fermés, qui ont une discrétion dans leur communication, qui ne sont pas facilement liables. On ne sait pas exactement ce qu'ils pensent. Ils sont extrêmement cultivés, érudits, et civilisation très extraordinaire d'ailleurs, auquel je fais compliment. mais on n'est jamais dans la stabilité de savoir si on est un ami ou pas. Alors que les Chinois, au bout d'un déjeuner ou un dîner, par exemple, vous sentez une chaleur humaine, une chaleur d'amitié, une chaleur de... Vraiment, c'est beaucoup plus
latine.
Facile. C'est très, oui. Les Chinois sont opposés aux Japonais.
Et comment vous... Alors, je sais que vos collections ont été très bien accueillies en Chine, mais en 79, c'était quand même... bon, c'était une très belle audace de votre part. Et comment les Chinois ont reçu ces collections ?
Les Chinois m'ont accepté, premièrement, par l'établi, comme je vous l'ai dit, puis ensuite par le textile, car la Chine a toujours été un territoire de soie, de laine, de coton. Et le gouvernement commençait déjà à vouloir faire la promotion d'exportation de leurs produits. Sachant que j'étais tout de même un leader dans la mode, ils m'ont demandé si éventuellement je ne pouvais pas les aider dans le textile, pour essayer de les aider, de présenter une collection pour pouvoir promouvoir leur pays dans le textile. Ce que j'ai fait,
c'est
en commençant
demande.
À présenter une collection dans des communautés tout à fait masculines, puisque, disons, c'était des réunions de 60 à 80 personnes, uniquement des hommes qui décidaient du textile. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière avec eux, en faisant des licences et en leur permettant de vendre sous l'image Pierre Cardin à l'extérieur de la Chine.
C'était des vêtements, des collections dans.
Je leur ai donné la direction de la mode premièrement, ouais. Car il fallait leur donner la possibilité, d'après des patronages, après des conseils de couleurs, de matières et même de lignes et de coupes. Donc je leur ai donné la technologie qui leur a permis de faire des foires. C'est moi qui ai présidé la première foire de textile à Pékin. Et ils ont pu faire des ventes à l'étranger à travers la mode. Car ils avaient les costumes Mao, tout était gris et noir et marron.
Oui.
Donc la première fois quand je suis allé à Pékin. Et par à travers moi, on a commencé à faire des vêtements internationaux, européens, si on peut dire, ou internationaux, dans les chemises, dans tout. C'est-à-dire que les Chinois ont quitté leurs deux uniformes. Ils sont devenus européens comme dans le monde entier, mondiaux. Quoi.
Ouais, ouais. Comment le vêtement chinois, un petit peu triste que vous nous décrivez, il avait aussi un côté unisexe?
Oui, les femmes et les hommes étaient
dans
des costumes
votre...
masculins, voilà, sans pantalon et veste, col Mao, gris,
c'était quelque
marron
chose de moderne, quand même.
Et noir. C'était vraiment, on ne savait pas. Moi, je me souviens de la première collection qui est présentée sur une jeune fille qui faisait partie du comité du bureau de Pékin. Elle était tellement grosse que j'étais très étonné. J'ai demandé si on pouvait, j'avais apporté des modèles de Paris, qu'on puisse les présenter au comité.
Oui.
Et j'avais vu cette jeune fille, j'ai dit peut-être qu'on pourrait les présenter sous cette jeune fille-là, ce qui a été très difficile d'ailleurs à obtenir. Enfin, j'ai obtenu. Et je l'ai déshabillée. En me déshabillant, elle avait 8 pull-overs, bleu, rouge, vert, violet, jaune à l'intérieur. C'est-à-dire que quand je l'ai déshabillée, elle était menue, elle était presque un squelette, alors qu'elle était énorme avec tous les pull-overs. Elle avait son capital sur elle-même, en réalité, avec les pull-overs.
Alors, en Chine, vous avez aussi voulu former au textile. Vous avez créé un département de mode et de stylisme au sein de l'Institut du textile, des sciences et des technologies.
Oui, là, ils m'ont demandé d'être un peu leur professeur, de pouvoir les diriger, de pouvoir les indiquer, les mettre sur la lignée de la mode internationale, donc toujours pour l'exportation. Ce qui fait que par la suite, j'ai présidé les foires et ils ont merveilleusement, d'ailleurs, très vite mis au courant la mode internationale. Et actuellement, c'est le plus grand marché du monde, puisque tout le monde, les étrangers américains ou européens ou même asiatiques, vont tous en Chine pour faire fabriquer des vêtements, car la main-d'œuvre est extrême, mais non pas sociale pour le moment. Quoique maintenant, ça commence, les charges sociales commencent, mais pendant des années, moi je suis là-bas depuis tout de même bientôt 15 ans, 20 ans, en textile, j'y suis depuis 30 ans bien sûr en présence, mais maintenant le social de ce pays, les salaires augmentent. Disons, ils arrivent à former une communauté sociale qui font que les prix augmentent maintenant et que peut-être dans 10 ans, ça fera comme le Japon, comprenez-vous. Donc ce sera l'Inde après qui sera les successeurs.
À quels grands événements historiques avez-vous assisté en Chine au cours des 25 voyages, 30 voyages que vous avez effectués?
D'ailleurs, ce qui était impensable au début, il y a plus de 20 ans, d'avoir le droit de construire un restaurant Maxime, ce qui était utopique, étant donné que le communisme était maoïsme, et de vouloir faire un lieu de rencontre à Pékin, capitaliste, avec, disons, de la nourriture importée de France et d'ailleurs, du Japon et de partout. C'était une révolution. J'ai même promené faire mon inauguration en ayant demandé aux Chinois de venir à Paris. Tous ces jeunes gens sont venus à Paris. Je les ai formés pendant 3 mois à Paris. Et ensuite, on a fait un très, très grand cocktail pour l'inauguration, voyez-vous, sur la Grande Muraille, comme vous le voyez sur cette photo-là. Donc ça a été pour moi un événement extraordinaire de savoir qu'il y avait à Pékin un restaurant légal de Paris. Tous ces jeunes gens ont fait leur école à Paris, sont venus à Paris, ont travaillé à Paris.
Et quelle est l'image pour ces gens de Paris?
C'est-à-dire qu'ils étaient émerveillés d'avoir vécu à Paris pendant 3 mois, comme les mannequins promis qui sont venus, les 12 mannequins qui sont venus à Paris également à l'époque. C'était pour eux un rêve impensable. Ouais. C'était des gens qui vivaient dans la simplicité du maoïsme, qui prenaient manger un bol de riz par jour. Subitement, ils arrivaient à Paris, je les ai sortis à Versailles, je les ai emmenés dans les châteaux de la Loire, je les ai fait travailler à l'Espace Carnin, je les ai fait travailler chez Maxime à Paris. Ben, ça a été un tel étonnement que ça a été mes ambassadeurs, en réalité, quand ils sont revenus à Pékin.
Eh oui. Alors vous, Pierre Cardin, qui vous êtes rendu des dizaines de fois en Chine, vous avez vu évoluer la Chine vers le libéralisme. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris?
Eh bien, c'est-à-dire que la Chine est devenue aussi moderne, si ce n'est plus moderne, que l'Europe aujourd'hui.
Comment vous percevez ça?
D'ailleurs, on va faire un deuxième Maxime que je vais inaugurer à la fin du mois. C'est un pays qui a des boîtes de nuit, il n'y a plus de bicyclettes. À Paris, il y a plus de bicyclettes qu'à Pékin, alors que les rues étaient entièrement, on roulait qu'en bicyclette. Oui. Maintenant il y a des voitures, mais il y a des embouteillages de voitures. Vraiment, le modernisme, enfin l'Europe, l'Amérique, tout s'est installé là-bas. Les gens ont des appartements, ils ont reconstruit des milliers, des millions d'appartements. Moi, quand je suis là-bas, il y avait un seul hôtel, qui était l'hôtel impérial, alors que maintenant, il y a peut-être 5000 hôtels.
Ça vous séduit, cette ivresse de la construction?
Le matin, vous voyez les palissades, 2 jours après, l'hôtel est terminé. Il y a une construction extraordinaire. Les gens travaillent à des très beaux magasins maintenant, comme à Pékin, comme à Tokyo, comme à Shanghai.
C'est luxe.
Des grands de luxe d'abord. Oui, il y a du luxe, beaucoup de boutiques de luxe. À Pékin et à Shanghai aussi, par exemple, il y a tous les supermarchés comme, disons, Auchan, Carrefour. Enfin, tout est installé dans le monde entier. C'est un pays qui en 20 ans s'est révolutionné et est devenu une ville américaine et européenne. Enfin, je veux dire, ils ont évolué tellement vite et rapidement. Et puis, élégance, dépense, théâtre, musique, danse, enfin, absolument tout ça. C'est une ville qui est devenue comme en Amérique et en Europe.
D'accord. Et à propos de la mode, quel regard vous portez sur la mode chinoise?
Bien, la mode actuellement, la mode pratiquement tous les manufacturiers américains ou européens ou italiens font tout fabriquer en Chine, ils donnent les patronages. Et il y a tellement de qualité de main-d'œuvre en plus et à des prix très intéressants qui font que le monde entier, c'est le plus grand marché textile du monde en réalité, avec des grandes foires où ils exposent avec des milliers d'exposants de fabrication. Pensez que moi j'ai une usine de chemise, il y a 40 000 personnes qui travaillent rien que dans mon usine de chemise là-bas. J'ai en Chine 42 fabriques.
Oui.
Donc ils sont des usines dont on n'a même pas idée, impeccables, tout le temps avec des masques blancs, avec des vêtements blancs. C'est le comme tous les pays qui se rénovent, ils le font au maximum du progrès.
Et sur les créateurs de mode chinois?
Il y aura sûrement des créateurs de mode. Pour le moment, il n'y en a pas encore qui ont, mais sûrement, comme le Japon a été le même cas.
Oui.
Il y a une vingtaine d'années, moi je suis allé au Japon donc il y a 50 ans, il n'y avait pas de créateurs. C'est moi-même qui ai fait les premiers défilés au Japon, qui a appris au Japon aussi la mode, puisque c'était tout en kimono, le même système. Oui. Quand je suis allé au Japon il y a 50 ans, tout le monde était en kimono aussi, il n'y avait pas de vêtements européens. Donc maintenant, pour la Chine, c'est exactement pareil pour le moment. En tout cas, c'est une évolution. Malheureusement, il ne faut pas en avoir peur. Il faut essayer pas de lutter, mais de les comprendre et les remercier qui nous font travailler. Parce qu'en fin de compte, on les critique, les Chinois, alors que tout le monde y va là-bas pour les faire travailler. C'est de l'esclavage indirect.
Est-ce que cette uniformité de culturelle du vêtement, est-ce que vous la trouvez menaçante?
Elle n'est pas menaçante, c'est à nous de ne pas en avoir peur, on n'a qu'à en faire l'égalité. Si on a peur, c'est qu'on est inférieur, tout simplement. Donc, il faut prouver qu'on peut faire les mêmes prix et la même qualité. Il se trouve que là-bas, il y a quand même plus d'1 milliard et 300 millions d'individus. C'est-à-dire que, de toute façon, dans la créativité, s'il y a un nombre de qualités de créateurs et d'artistes, c'est aussi bien dans la peinture, dans la sculpture, dans la gravure et même dans l'intelligence et dans l'invention. Ils ont invité au début de leur civilisation, ils nous ont tout apporté, même les feux d'artifice, enfin, etc.
Qu'est-ce que vous pensez des relations entre la France et la Chine au niveau de l'échange culturel?
Bien, l'échange culturel, par moi d'ailleurs, j'ai commencé à faire beaucoup de choses là-bas en Chine. Maintenant, je représente, j'ai monté des spectacles, Tristan Liseux, Dali Folly, on va présenter le Marquis de Sade. Maintenant, je suis en train de monter pour les...
Alors, vous avez un beau projet.
Très grand projet qui est la vie de Marco Polo, puisque je suis italien d'origine, comme vous le savez. Donc, nous sommes en train de monter un très grand ballet international.
C'est un opéra-ballet,
une comédie musicale. Qui va avoir lieu pour l'ouverture des Olympiades à l'Opéra de Pékin.
Au Théâtre National de Pékin, celui construit par Paul Andreu.
Le nouveau qui a été fait par notre architecte français.
D'accord.
Oui. C'est une comédie musicale. Il y a des chanteurs, des danseurs, il y a des comédiens, il y a du virtuel. Enfin, c'est Pietra Galla, qui est notre plus grande danseuse, à qui j'ai donné le droit d'organiser, de faire le spectacle. Et c'est moi qui le monte en tant que propriétaire, en tant que financier.
C'est une commande, en quelque sorte, cette œuvre ?
Non, c'est même pas une commande. Ils m'ont demandé d'apporter un spectacle pour les Jeux Olympiades.
D'accord.
Et j'aurais parlé de Marco Polo, qui était en réalité l'aventurier qui a, quand même, au XIIe et XIIIe siècle, connu la Chine. Et ça correspondait au personnage des athlètes, en réalité, puisque...
Eh oui, c'était déjà un exploit à l'époque.
L'aventurier aussi, c'est la victoire de la performance athlétique. Et Marco Polo était un aventurier, en réalité.
Puis qu'il restait des années en Chine, bon, on connaît l'histoire jusqu'à nos jours. Ce spectacle, le peu que j'en sais, ça a l'air d'être tout en modernité. Les décors vont être uniquement faits de dessins animés, d'animation.
Il y a beaucoup de virtuel. On utilise la technologie d'aujourd'hui par des plans de projection, vous voulez, parce que les batailles, par exemple, multipliées. La technologie d'aujourd'hui nous permet, par exemple, il y a beaucoup de batailles, il y a eu des morts, il y a eu des victimes, ils ont rencontré la Russie, la Turquie, etc. Ils ont traversé pour aller à Marco Polo, à Almaty, au Kazakhstan. Ils ont traversé les terrains à Marco Polo et il a eu évidemment beaucoup de morts, parce que c'était à cheval à l'époque, donc il y a eu des bagarres, il y a eu des morts. D'ailleurs, si vous passez en Chine, on revoit encore où Marco Polo a séjourné, où il y a les fameuses tombes, les 1000 Bouddhas. Parce que les Bouddhas étaient la route du commerce sur la route de la Chine et les Bouddhas ont été donnés en offrande comme on pourrait offrir une Sainte Vierge ou un Christ
en
protection par rapport qu'ils ne soient pas ni pillés, ni volés, ni cambriolés.
Vous êtes rendu sur ces lieux ?
Je suis allé en ce lieu, on a fait un défilé dans le désert.
Vous avez organisé un défilé, je crois.
Bon, ça a été formidable. Oui. Voyez-vous, la France a mon drapeau et moi-même. Je représente en France, il y a des photos, il y a mon ambassadeur également là-dessus. Je représente le français, je pense, le plus populaire en Chine.
Vous êtes un homme de voyage,
un homme de terrain.
De terrain, voilà. D'échange. Là, parce que là, vraiment, c'est...
Ce qui me permet d'avoir des relations au plus haut niveau.
Et puis, d'échange commercial aussi. Vous avez apporté beaucoup sur le textile.
Marco Polo, c'était du commerce, n'oubliez pas. C'est Marco Polo qui a rapporté les macaronis, les pâtes. Marco Polo, le feu d'artifice, ils ont apporté beaucoup de choses de la Chine.
Vous êtes
ce sont les aventuriers du moment. Ouais. Et moi, je suis un aventurier. Je me réserve cette privilège.
Vous êtes trouvé un bel ancêtre dans la figure de Marco Polo.
Oui, comme je suis italien, je suis vénitien.
C'était tout trouvé.
La coïncidence est extraordinaire parce que mes parents sont vénitiens. Donc moi, aller à Pékin, c'est une des raisons aussi pour laquelle je voulais connaître ce pays, du fait que...
Puis la soie.
Le premier personnage qui est allé en Chine.
Alors, comment voyez-vous pour finir le futur de la Chine ?
Je crois qu'il faut les respecter, ne pas en avoir peur et se prouver qu'on peut s'aider mutuellement par la créativité. Nous avons des qualités en tant que Français et Européens. C'est de mettre en valeur nos vraies valeurs. Si on en a peur, ça veut dire qu'on est inférieur. Je crois qu'on peut avoir des relations diplomatiques. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. C'est d'avoir des relations et ne pas les critiquer, en tout cas, parce que la critique est une chose qui est plutôt néfaste que positive. Moi, j'ai respecté tous ces gens-là, j'ai des relations très grandes. J'ai 40 usines qui travaillent pour Pierre Cardin là-bas.
Ça fait combien de personnes qui travaillent pour vous en Chine ?
50 000 personnes.
50 000 personnes sur les 230 000.
Une usine de chemise à 40 000 personnes, regardez, une usine.
C'est énorme.
Il y a les parfums, il y a absolument tout. Oui. Donc, j'ai réussi à m'établir discrètement, sans passer par la politique ni par l'ambassade. Parce que souvent, quand on passe par les ambassades, il y a énormément de dossiers et il y a des sympathies qui se créent aussi. Alors que moi, j'ai été très indépendant. Mes relations ont été faites aussi bien avec Mme Gandhi qu'avec les directions en Chine, au Pékin, partout avec les plus autorités, Deng Xiaoping. Je suis assez indépendant, égoïste, pas égoïste, mais indépendant.
C'est votre liberté.
C'est ma liberté. Je suis un homme libre. J'aime être indépendant. J'aime faire mes erreurs. Je les assume.
Eh bien, écoutez, Monsieur Cardin, merci beaucoup.
Voilà, merci pour votre interview.
Merci. Vous venez d'entendre Pierre Cardin, qui recevait Canal Académie le 17 juin 2008
avenue de Marigny, au siège de sa société, pour évoquer la Chine, où il fut l'un des premiers hommes d'affaires à s'implanter dès 1978. Canal Academy espère que le bruit des travaux qu'on entend lors de la prise de son au moment du reportage n'a pas trop gêné votre écoute de l'interview.